Conférence débat, 15 juin 2016, Nantes, 14h-18h30, empathie et apprentissage, conclusion et perspective, Jacques Sory, professeur des universités, directeur du laboratoire Motricité, Interaction, Performance, Nantes, directeur adjoint de l'UFR STAPS de Nantes.
Alors, en deux mots quand même, enfin, très rapidement. J'ai la conviction que j'ai été passionné par tout ce qui s'est dit et vraiment, j'ai trouvé toutes les présentations d'une complémentarité et aussi d'une qualité vraiment très, très intéressante. J'ai la conviction que la thématique de cet après-midi et ce qui se jouait dans les débats est vraiment quelque chose d'essentiel dans la transformation des pratiques pédagogiques et dans une transformation qu'on souhaite, positive en tout cas, de ces pratiques pédagogiques. Alors j'ai pointé quatre éléments, enfin quatre thèmes que je vous restitue rapidement. Le premier, ce serait, je trouve que y a un enjeu fort à sortir d'une opposition entre, plutôt d'une distinction assez classique, entre d'un côté ce qui relève de l'enseignement, plutôt orienté vers les questions d'instruction, de transmission de contenu, etc., comme si c'était dénué de relations, comme si c'était dénué d'émotions, comme si c'était dénué d'affect et d'engagement émotionnel des élèves, et de l'autre côté, quelque chose qui relèverait de la relation, de la bienveillance, de l'empathie, et donc en fait, finalement, qui recouvre, hein, grosso modo, une distinction entre didactique et pédagogie, qui recouvre une distinction entre l'instruction et la relation. Bon, et je pense que ça, c'est un obstacle. Alors, même si André Campbell a déclaré on bascule de la didactique vers la pédagogie, mais je trouve que cette distinction et cet effet de balancier pourrait aussi être, c'est une question en tout cas, si cette distinction n'est pas finalement un obstacle à une évolution vers une école bienveillante et inclusive qui pose la question des apprentissages au niveau de ce que vivent les élèves. Et l'expérience des élèves, elle n'est ni pédagogique ni didactique, elle n'est ni centrée sur ce qui est purement de l'ordre des apprentissages et des contenus, ni de l'ordre de quelque chose qu'ils ressentent à un niveau émotionnel, relationnel, etc. Ils construisent des expériences qui sont syncrétiques, qui agrègent. Et on a eu des illustrations extrêmement intéressantes toute l'après-midi de ce fait-là. Par exemple, la vidéo projetée par Eva, Anne et Céline était à la fois poignante et très parlante de ce point de vue-là. On l'a vu aussi dans les exemples donnés par M. Maréchaux tout à l'heure sur l'expérience en CFA. Bon, donc on voit à quel point les deux sont étroitement imbriqués. Et donc, ce n'est pas le supplément d'âme qui va s'ajouter à la didactique ou au travail sur les contenus. C'est quelque chose qu'il faut davantage penser comme étant intégré. Le deuxième point, c'est ce que je retiens et qui a été très, très fort et particulièrement, tout le long en fait, de l'après-midi, c'est que bien-être, empathie, école bienveillante, on parle de quoi ? On parle essentiellement de pratique. De pratique, c'est-à-dire d'engagement concret dans des activités concrètes. C'est-à-dire, on parle. Charles avait donné le ton au début de l'après-midi en disant « on ne va pas parler, ne cherche pas à perdre du poids, fais-le ». M. Maréchaux avait dit « on ne va pas parler de bienveillance, on va la faire ». Bon, donc en fait, c'est avant tout engager les élèves et les enseignants dans des pratiques, ce qui met à la fois, alors en éducation physique en particulier, mais pas seulement, ce qui donne une place centrale à l'engagement concret, corporel, physique, dans des situations. Mais ce qui suppose aussi une question d'incorporation, c'est-à-dire que ce qu'il y a à transformer, ce n'est pas des conceptions, ce n'est pas des représentations, ce n'est pas des connaissances. Ce qu'il y a fondamentalement à transformer, c'est des dimensions qui s'incorporent et qui deviennent d'ailleurs des habitudes ou qui deviennent un habitus d'enseignant ou de façon de pratiquer l'école, d'élèves et d'enseignants. Et cette incorporation d'habitude, ou même d'un habitus, ça passe par, ça a été dit, la régularité, la répétition. On retrouve aussi fondamentalement là la question du temps. Ça ne se transforme pas en claquant des doigts, ça ne se transforme pas en passant uniquement par des raisonnements et la rationalité. Je trouve que ça a trois conséquences. C'est mettre au centre l'expérience de pratique, qui ne sont jamais des contenus désincarnés. L'atelier de slam qu'on a vu tout à l'heure, cet atelier de slam, il a lieu aussi dans l'école. Sauf qu'il suscite chez cet élève, d'un seul coup, une expérience radicalement différente des autres expériences que cet élève vit dans l'école. Donc, ce n'est pas le rapport à l'école en général, c'est quelque chose qui, à un moment donné, prend sens dans une expérience, dans une pratique particulière, et qui ne ressemble pas aux autres expériences, y compris qu'elle a vécues à l'école. Donc en fait, c'est ce qui est assez intéressant, c'est ça. Deuxième chose, c'est la relation entre les pratiques corporelles et la verbalisation. Et je trouve que là, il y a, enfin, pour moi, c'est dessiné cet après-midi, quelque chose à quoi j'adhère beaucoup, c'est finalement inverser l'ordre classique dans lequel on voit cette relation à l'école. Qu'est-ce qu'on fait à l'école ? On apprend pour faire. On apprend intellectuellement pour faire, ou en tout cas, je caricature parce qu'il faut aller vite. Ce sont les mots, ce sont les règles, ce sont les principes qui guident l'action. Là, c'est l'inverse. On fait pour pouvoir mettre en mots sa pratique, mettre en mots son activité, pour pouvoir apprendre, y compris de la manière dont on s'y est pris pour faire, de ce qu'on a ressenti, pour pouvoir communiquer ça. Et ça, c'est très important. Je trouve d'ailleurs que cet enjeu de la mise en mots, mettre en mots ses émotions, ses sensations, son expérience corporelle, c'était aussi la thématique de l'année dernière, comment mieux écouter, comment mieux aider les élèves à mettre en mots ses expériences. Et on l'a dit, inscrire ses perspectives sur le temps long. Alors, aussi, je souligne sur ce deuxième point que ces pratiques-là, elles existent en partie déjà. On a fait cet après-midi un peu trop comme si, d'un seul coup, il fallait initier, inventer, mais on l'a vu en même temps, ces pratiques existent déjà. Et je trouve que l'idée qu'a développée André Campbell sur une éthologie scolaire, je la trouve tout simplement excellente. Il faut aussi travailler sur les pratiques existantes et voir déjà ce qui se joue dans les classes et qui est de l'ordre entre les élèves, entre les enseignants et élèves, entre les équipes pédagogiques, enfin au sein des équipes pédagogiques, et qui est de l'ordre de la mise en jeu déjà. En gros, les enseignants, beaucoup d'enseignants, pratiquent, sans le savoir, une école bienveillante, et un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eux le font. Alors, ce qui est intéressant, c'est de formaliser, peut-être systématiser, transmettre, capitaliser, et ça, c'est important à faire. Alors, troisième point, c'est... j'irai vite parce que ça a été beaucoup développé par André Campbell et il en a fait une magnifique synthèse, j'ai trouvé. C'est que quelles conditions pédagogiques peuvent être bienveillantes ou qui encouragent le développement de l'empathie, etc. L'exemple du lycée des Bourdonnières était vraiment superbe. Enfin, moi, je l'ai trouvé extrêmement éclairant et spectaculaire. Mais déjà, considérer que ce sont fondamentalement des dimensions relationnelles. Il n'y a pas de bienveillance qui s'inscrive dans une activité solitaire, individuelle, etc. Et ce sont fondamentalement des dimensions relationnelles. Et donc, ce qu'il faut transformer, c'est la relation. C'est donc des dimensions collectives, toujours collectives. C'est le regard des autres sur soi, c'est le regard de soi sur les autres, c'est la façon dont les enseignants et les élèves interagissent pour mieux comprendre mutuellement ce que... Donc en fait, il y a des dimensions collectives qui sont fondamentalement impliquées, et du coup, ce collectif, je trouve aussi que ce qui est apparu dans les interventions, c'est comment l'importance qu'il faut accorder à l'alignement ou la cohérence, disons, entre ce qui se joue entre les élèves et l'enseignant, entre les classes et ce qui se passe dans l'établissement plus globalement ou l'équipe d'enseignement. C'est-à-dire que ça a été dit hein, plusieurs fois, hein, si les élèves ne sont pas... ne se sentent pas bien, si les élèves, pardon, si l'enseignant ne se sent pas bien en classe, c'est difficile qu'il transmette ce bien-être aux élèves. Mais on a vu aussi que si les enseignants ne coopèrent pas ensemble, comment inciter les élèves à coopérer, eux ? Comment ? Donc en fait, ça s'inscrit toujours dans des registres de, finalement, d'emboîtement et de cohérence qu'il faut prendre dans leur globalité. Et alors forcément, ça complique les choses parce que les transformations, ça ne se joue pas seulement au niveau des recettes pédagogiques que peut mettre en place l'enseignant, mais ça se joue à un niveau plus structurel, plus global, plus collectif au sein de l'établissement. Alors la démarche climat scolaire qu'a développée André Canvel, je trouve qu'elle montre bien tous ces échelons. Enfin, dernier point, je trouve que tout cet après-midi, et ça renforce la conviction que j'avais l'année dernière en sortant de cette journée, de la journée, celle de l'année dernière, c'était que vraiment, là, on a des conditions idéales, quand on voit en plus une assistance aussi nombreuse, aussi, j'allais dire hétéroclite, c'est pas péjoratif, mais en tout cas, aussi mêlée d'enseignants de différentes disciplines, de chefs d'établissement, d'IPR, de chercheurs. Donc en fait, alors comme l'année dernière, il manque les élèves, hein, mais ça a été... Pardon ? On a vu des vidéos, oui. Pardon. Ah, il y a deux élèves en plus. Mais en même temps, c'est pas du tout, c'était plus une boutade qu'autre chose. Mais je trouve que dans les présentations de Omar Zana et de Charles Martin Krum, ce qu'on a vu, c'est aussi des recherches qui s'engagent sur le terrain de pratiques ordinaires, de pratiques réelles, pour non seulement être des observateurs et des analystes de ce qui se passe dans la classe, mais aussi pour concevoir, co-concevoir avec les enseignants des dispositifs de transformation de ces pratiques et d'évaluation des effets de ces pratiques. Et je trouve que c'est... on a franchi, enfin en tout cas dans cette journée-là, on a franchi par rapport à l'année dernière un cap dans ce qu'il est possible de mettre en place en termes de collaboration entre enseignants, chercheurs, chefs d'établissement, établissements, enfin collectifs ou équipes d'établissement. Et en tout cas, ce sont des modèles, ceux qu'on a vus, ceux qu'André Canvel a aussi promus, cette éthologie scolaire, cette observation de ce qui se passe dans les classes. Je trouve que toutes les conditions sont réunies pour que finalement un observatoire des pratiques deviennent, puissent être effectifs et qui mettent en relation toute cette communauté-là, chefs d'établissement, enseignants, chercheurs, etc. En tout cas, du point de vue de certains chercheurs, je parle pour mes collègues également, qui ont montré qu'ils étaient engagés, mais pour ce qui concerne les chercheurs de Nantes également, qui travaillent dans mon laboratoire, on est prêt aussi à travailler sur des démarches collaboratives de cet ordre. Et en tout cas, c'est très encourageant. Et je vais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre patience et votre attention.
Delphine Evin, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale EPS.
Merci Jacques pour cette synthèse. Effectivement, elle n'était pas aisée, mais elle apporte quand même à voir de la journée. Moi, je souhaiterais remercier très très chaleureusement tous nos collègues de l'éducation nationale praticiens. De leur venue. Je pense notamment aux intervenants dans le cadre des tables rondes, mais aussi André Canvel, bien évidemment notre groupe des Bourdonnières, pour lequel encore je suis vraiment désolée parce que je pense que c'était l'une des plus belles communications pour le coup. Et voilà, et pourtant c'est pas force d'avoir préparé ça correctement, mais j'en suis tout à fait désolée. Désolée aussi pour vous, mais à la fois des remerciements aussi en votre direction parce que vous avez été effectivement, vous avez répondu aux nombreux à l'appel de cette année. L'année prochaine, on reconduit de toute façon ce type d'intervention. On va, comme le dit Jacques, on va continuer de progresser. Je souhaitais aussi remercier nos partenaires parce que je ne sais pas si vous le savez, une petite lettre d'information qui est tombée hier au soir. Alors comme j'étais sur l'ordi, comme souvent, je me dis tiens, on va l'apporter. Ils nous ont fait encore un petit hommage, donc c'est plutôt sympathique. Ils ont même été prélever la petite, voilà, notre petite page. Bon, et puis, bon, bah, c'est toujours sympathique. Avec eux, on travaille aussi, puisqu'ils relaient largement les travaux des chercheurs. Et pour le coup, c'est toujours bien de leur adresser un petit clin d'œil. Et puis, dernier élément, bien évidemment, eh bien, c'est remercier nos universitaires qui étaient là. Et là, je souhaiterais l'aide peut-être de Gwenaëlle, Sylvie et Bernard, si vous voulez bien vous lever et venir m'aider. Merci. Je souhaitais tout particulièrement remercier, alors déjà Omar est parti, donc peut-être s'il y a un manceau, peut-être Geoffrey, éventuellement, si tu passes peut-être à l'Université du Mans. Est-ce que tu veux bien, à un moment donné, nous rendre un petit service? Je pensais aussi à... Je pense qu'il a dû, repartir. Est-ce que M. Maté est encore là? Non. Par contre, il doit y avoir Nicolas qui est là. Donc, c'est très bien, il représentera. Donc, voilà. Cette année, je souhaitais remercier tout particulièrement... Alors, vous savez, hein, tous les ans, je fais toujours un petit truc. Bon, l'année dernière, c'était comment dirais-je? C'était Jacques qui avait reçu sa petite cravate. Cette année, j'ai décidé donc d'offrir autre chose. Alors, pour... par exemple, à nos universitaires, donc, qui nous ont représenté...
À qui?
Alors, il y a Jacques Souris. Geoffrey, si... Il est là, Geoffrey? Tu veux bien représenter Omar Zana? Nicolas? Ça, je ne sais pas. Nicolas, qui représente l'IFEPSA. Alors, à noter que le directeur de l'IFEPSA était présent aujourd'hui, hein. Il a sans doute dû repartir. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir les enseignants de l'enseignement privé également, parce que nous partons du principe que la science n'appartient ni au privé ni au public. Voilà. Et vous remarquerez donc quelque chose.
Disons-le, sourire.
Le sourire est un élément essentiel dans la quête de l'empathie. Merci à tous. Bon retour chez vous.
Prise de vue et de son, Philippa Benoît Le Serre, Pierre-Louis Laz, Sandrine Veille. Montage, Sandrine Veille.